Nous sommes avec Stéphane Rollet sur le stand de la librairie L'Imaginaute. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là pour nous présenter votre ouvrage sorti aux presses universitaires, François Rabelais, qui s'appelle « Le trône de fer ou le pouvoir dans le sang ». L'idée de travailler sur trône de fer, c'est venu d'où ?
C'est venu, je dirais, de façon concomitante, du visionnage de la première saison de la série et de la lecture de l'ensemble des ouvrages de Martin qui relevaient de cette saga de fantasy.
Et faire une étude sur une œuvre qui n'est pas encore terminée, est-ce que c'est un peu compliqué ou au contraire, est-ce que c'est un peu jubilatoire parce que vous êtes un peu pionnier sur le sujet ?
J'oserais dire les deux, en quelque sorte, parce que c'est vrai que ce n'est pas terminé. Mais en même temps, les quatre saisons forment un ensemble très cohérent. Sans pouvoir dire que la quatrième saison, c'est la fin tout court, ça serait une erreur, c'est malgré tout la fin de beaucoup d'arcs narratifs très importants, je ne les dirai pas. Et en même temps, la quatrième saison annonce ce qui va suivre, évidemment, et pose vraiment une sorte de pilier pour construire la prochaine arche, en quelque sorte. Donc non, c'était pas forcément gênant pour cette raison déjà de structure en fait, qui était très bien mise en place, indépendamment de moi évidemment et de ma volonté.
Ça s'adresse plutôt à des novices ou plutôt à des férus de trône de fer selon vous, ou les deux ?
Alors à mon avis les deux, mais il est vrai que ceux qui vont avoir envie de regarder la série juste après et qui ne veulent pas qu'on leur raconte tous les épisodes les plus truculents, les plus intéressants, bon, devront faire attention à la lecture puisque, comme je le disais juste avant, l'ouvrage concerne les quatre saisons actuellement diffusées.
Donc vous avez fait votre travail au fur et à mesure du visionnage des séries et de la lecture des romans ?
Alors, non, pas exactement. En fait, après avoir vu donc les premiers épisodes de la première saison, donc comme je vous disais, j'ai lu tous les ouvrages de la saga et même ceux qui étaient légèrement extérieurs. J'avais une connaissance, je dirais, bien plus lointaine en quelque sorte en termes chronologiques que ce qui avait été tourné et même que ce qui a été tourné depuis. Ensuite, je ne m'y suis pas mis tout de suite à ce travail. D'abord parce que je pensais que, vu la qualité des livres et la qualité de la série, il y en aurait d'autres et que peut-être pas la peine de commencer un ouvrage dessus. Et puis le temps passant et voyant que rien ne venait et rien n'était annoncé chez les éditeurs, j'ai décidé moi-même de faire un ouvrage à la fin. Voilà.
Et votre angle d'attaque à vous, puisque donc 4 saisons et il y a 3 grandes parties dans le livre.
Oui, mais ça c'est pas en soi gênant parce que en fait il y a 3 parties qui sont les 3 tomes, donc les 3 premiers tomes. Mais il n'empêche que les thèmes sont complètement transversaux et qu'on passe fort logiquement, en suivant les intrigues, d'un tome à un autre, sans que cela pose de difficultés. Ce qui pouvait être difficile, ce que j'ai essayé de faire moi, c'est de donner le maximum de balises, si vous voulez, pour essayer que celui qui a pris plaisir à regarder la série, ou même qui a pris plaisir, évidemment, à lire les ouvrages, mais ce ne sera pas exactement, pas toujours les mêmes personnes, puisse trouver aussi des choses qu'il n'a pas vues, qui lui ont échappé, des rapprochements qu'il n'a pas eu le temps de faire, et qui, en fait, sont, je crois, structurants, et permettent, j'espère ça, une compréhension meilleure, plus approfondie, plus jubilatoire, pour le coup, comme vous disiez tout à l'heure, de cette série.
Et l'angle historique est propice à ça. Vous nous disiez des références plutôt Renaissance par rapport à une série qui est plutôt médiévale, en tout cas dans l'esprit des gens.
Alors, ça peut-être, il y a deux choses différentes finalement dans votre question. Alors, les livres relèvent de la medieval fantasy, il n'y a aucun problème. Maintenant, l'adaptation est plus tournée vers d'autres époques, et en particulier vers celle de la Renaissance, qui joue sur le plan visuel un rôle vraiment très important. Alors aussi bien la Renaissance, je dirais, directe, avec des citations, que la Renaissance indirecte. Et là, ce que je veux dire, c'est que les Anglo-Saxons voient la Renaissance aussi à travers le filtre de la peinture d'histoire victorienne du 19e, la peinture anglaise, mais aussi via les pré-raphaélites, et qu'il y a ces influences-là dans la construction visuelle, si vous voulez, du trône de fer. Il y a un autre aspect qui est important dans la question que vous me posiez, c'est qu'en fait, cette œuvre de fantasy donne l'impression, souvent, d'être un ouvrage historique, et les Américains ont souvent d'ailleurs cette impression-là. Bon, évidemment, c'est une impression qui est fausse, Mais en même temps, elle repose sur des faits. C'est qu'on a l'impression de retrouver, peut-être, des choses connues. Et il est vrai que George Martin l'a dit lui-même, il a été inspiré par les ouvrages historiques sur la guerre des Deux Roses en particulier, sur la guerre de Cent Ans, donc il avait cité là par exemple, on le dit toujours, les Rois Maudits de Druon, ce qui fait que cette teinte historique, elle est perceptible et elle nous parle. Alors elle nous parle aussi parce que finalement le monde de fantasy qui nous est décrit est un monde qui, par certains points, mais par certains points seulement, ressemble au nôtre. Un monde en crise politique, un monde en crise climatique. Bon, pour eux, c'est, j'allais dire, naturel, mais pour nous, ça se pose un peu autrement, mais c'est quand même une forme de réalité. Un monde où, en fait, donc je parle de Westeros, là, il y a une seule langue, il y a une confédération de royaumes. Nous, on va penser que, évidemment, bah, nous avons l'Europe. Alors, c'est pas une seule langue, mais l'anglais, qui est la langue du commerce, pourrait en jouer le rôle. Les États-Unis, évidemment, avec ses 50 États. Bon, ça, ce sont des points qui nous parlent de la même façon que la crise, qu'elle soit politique ou économique, bah oui, nous la connaissons. Nous avons compris d'ailleurs, en regardant la quatrième saison, qu'il y avait une grave crise économique qui menaçait Westeros, et que cette crise économique, elle est due en particulier à une forme de pyramide de Ponzi et à une énorme banque, donc la banque de Braavos, qui est derrière tout cela. Et c'est vrai qu'il y a là des liens. De la même façon, la violence qui peut transparaître, donc la violence liée au fanatisme religieux, est aussi quelque chose qui peut nous permettre de nous projeter. Mais il faudrait se garder peut-être d'aller trop loin dans ces projections, parce que ça reste un ouvrage de fantasy. C'est une œuvre d'imaginaire, et ce qui fait plaisir aussi bien au lecteur qu'au spectateur, c'est quand même d'abord que ce soit une œuvre imaginaire. Ça n'empêche pas qu'elle puisse nous faire penser aussi à ce qu'est notre monde.
Vous regardez toujours avec un œil spectateur, ou est-ce que du coup maintenant, dès que vous avez quelque chose qui tourne autour de Trône de Fer ou un nouvel épisode, donc ça reprend bientôt en plus avec la saison 5, est-ce que vous avez du coup maintenant seulement cet œil aiguisé avec la prise de notes ?
Ah non, mais là, moi je ne pourrais pas faire le métier que je fais en ayant simplement le carnet et le stylo. Non, il faut que je prenne plaisir moi-même à regarder ou à lire donc l'objet que je compte éventuellement étudier après pour que ça ait un sens. Non, absolument pas. Non, je conserve absolument intact, pour le coup, le plaisir que j'ai de regarder la série et le plaisir que j'ai de lire les bouquins, aussi bien en français qu'en anglais. Non, vraiment, oui.
Est-ce que vous avez rencontré George Martin ou approché un petit peu ? Je sais qu'il est très demandé à chaque fois et c'est juste compliqué quand il est venu en France et en Belgique. Voilà, c'était juste un peu l'émeute à chaque fois. Ou au moins approcher peut-être un éditeur ou...
Non, je n'ai pas essayé parce que, comment dire, je ne suis pas là, en quelque sorte, dans une démarche de fan que je comprends parfaitement. Moi, j'écris sur ce qu'il a fait ou sur ce qui a été adapté de son œuvre. Je serais très heureux de le rencontrer, évidemment. Bon, ce serait évidemment un grand honneur. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai spécifiquement recherché. Si on m'en offre l'opportunité, je la saisirai, évidemment.
Au niveau du lectorat, vous vous adressez plutôt, vu que c'est quand même quelque chose d'un peu... Enfin, en tout cas, vous êtes universitaire. Ça s'adresse... Alors déjà, la série, on va dire que ce n'est pas pour les plus petits. Mais vous pensez qu'on peut lire à partir de quel âge ?
D'abord, malheureusement, les presses universitaires ont la réputation d'être difficiles. Bon, c'est pas toujours, ça dépend, mais c'est pas toujours le cas. Et pour ce qui est de ce livre, qui de plus va s'inscrire dans une collection consacrée aux phénomènes sériels, donc en particulier aux séries télévisées, mais pas seulement, aussi aux séries policières, aux séries de bande dessinée. Dans le cadre de cette collection, donc des presses universitaires François Rabelais à Tours, ce que nous espérons faire, c'est justement des ouvrages qui soient lisibles par un public plus vaste, et pas simplement par nos collègues et camarades universitaires. Mais je dirais l'étudiant qui véritablement reste intéressé par toutes ces matières comme un amateur et pas comme un professionnel devrait, c'est ce qu'on espère, c'est ce que moi j'espère tout au moins pour mon livre, devrait y trouver son compte. Et j'ai essayé de proposer une rédaction qui soit libérée du jargon académique, qui soit libérée aussi des notes qui souvent entravent la lecture. Je suis lecteur, moi aussi, et ça m'agace, hein, bien souvent. Donc, Alors en même temps, j'ai mis à la fin une bibliographie qui permet aux gens qui veulent aller plus loin, d'aller plus loin, de trouver d'autres références qui leur permettent d'autres découvertes. Mais il me semblait que pour intéresser plus de gens, il était nécessaire de procéder un petit peu autrement. Bon, c'est un risque, je sais bien que j'ai pris là, c'est un risque aussi que les presses universitaires François Rabelais ont pris aussi, mais je pense que c'est une nécessité aujourd'hui où la recherche a plus que jamais pour but de se diffuser et de se diffuser auprès d'étudiants qui, de fait, sont beaucoup plus formés qu'ils ne l'étaient il y a 25 ou 30 ans.
La série continue. Alors les romances, donc c'est pas fini. La série, donc la saison 5 reprend dans quelques jours. Vous allez, je suppose, continuer à prendre des notes. Est-ce que vous ferez une sorte de volume 2 pour aller de la saison 4 à un petit peu plus tard, puisqu'on sait pas combien il y aura de séries, vu que les producteurs ont dit que de toute façon ils continueraient la série, même si George Martin lui met du temps sur l'écriture de la fin des romans. Ou est-ce que vous pensez faire des volumes de celui-ci, mais augmenter avec une... C'est jusqu'à la saison 5, puis après jusqu'à la saison 6. Si vous avez réfléchi à ça. Hein.
Alors, c'est une excellente question, mais à laquelle je n'ai pas pour l'instant la réponse. Bien sûr, pour ce qui me concerne, je vais continuer à travailler sur ce cycle, parce que tout simplement, il me passionne. Donc ça, je ne vais pas m'arrêter pour si peu, je dirais. Le fait, j'entends qu'on ne sache pas encore quand est-ce que ça va finir, et ni même si ça va finir, d'ailleurs, quelque part. On sait bien que les séries, quand elles ont commencé, parfois, le problème, c'est aussi qu'elles s'achèvent. Je ne sais pas encore la forme que ça prendra, mais ça prendra la forme d'un autre livre, ça, c'est sûr.
Si on vous permettait d'habiter dans un des lieux que je vais vous citer, lequel est-ce que vous prendriez ? Vous pouvez choisir la forêt de Sherwood, le 221 bis Baker Street, la caverne des pierres à feu, le manoir de la famille Adams ou la maison secrète d'Elvis en Antarctique. Vous voudriez habiter où ?
Baker Street. Londres est une capitale européenne tout à fait extraordinaire. Bon, évidemment, le problème, ce serait de trouver l'adresse. Mais non. Oui, Londres, parce que c'est une sorte de centre du monde, oui. Alors, je suis très attaché à Paris, bien sûr, mais il est vrai qu'il y a un dynamisme à Londres et une ouverture en même temps qui est assez incomparable.